La science CQFD, Natacha Triou.
L'équation de la chauve-souris de la poussée d'Archimède à la physique quantique vient de paraître aux éditions Hugo Doc. Son auteur, le mathématicien et vulgarisateur Michael Launay, est notre invité. Lors du développement des chaînes YouTube scientifiques, Michael Launay était là. En 2013, il ouvre la chaîne Micmath, qui rassemble aujourd'hui plus de 582 000 abonnés. Amoureux des maths et amateur d'énigmes, il continue de partager la vitalité de sa discipline. Après le théorème du parapluie, l'équation de la chauve-souris nous invite à regarder le monde autour de nous avec un œil mathématique, de la cuisson des coquillettes au bruit de l'aspirateur, en passant par les bulles de champagne, avec une approche toujours ludique, poétique et pop. Michael Launay, à bord de la Math Mobile. Michael Launay, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes mathématicien, créateur de la chaîne scientifique Micmath, auteur d'ouvrages de vulgarisation et chaque semaine d'une énigme math pour le journal Le Monde. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous.
Et puis merci à vous qui nous écoutez. Comme chaque jour, vous pouvez nous suivre sur X, ex-Twitter. On publie pour vous toutes nos sources et nos ressources. Notre live tweet commence tout de suite. Et puis, nous venons aussi de créer un compte Blue Sky. N'hésitez donc pas à nous suivre. Peut-on vraiment voir toutes les choses du quotidien sous le prisme des maths? Quelle est l'importance du changement de point de vue en mathématiques et d'ailleurs en sciences en général? Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. Mais d'abord, quelle est la part créative des mathématiques? La question est posée en 1965, c'est notre archive du jour.
Il est certain que cela, ce sentiment esthétique comme on dit, ce choix entre ce qui paraît beau, adéquat, convenable, qui correspond à ce que l'on veut, eh bien, ces sentiments sont constamment présents dans la création mathématique. Évidemment, sous une forme, faut-il dire plus subtile, plus cachée, peut-être pas. Car les éléments que le mathématicien agence, la paille qu'il tresse, la peinture qu'il étale, qu'est-ce que c'est? Ce ne sont que des pensées. Ce ne sont que des objets vraiment immatériels, ce sont des mouvements de pensée. Mais les mouvements de pensée mis dans n'importe quel ordre, ça n'est pas satisfaisant. Il y a des livres de mathématiques qui sont laids. Ils sont tous laids, bien entendu, par leur présentation extérieure ou à peu près. Bon, mais ça, laissons de côté. Mais je veux dire, il y a des pensées mathématiques qu'on peut dire qu'elles sont belles et d'autres qu'elles sont laides. Et le mathématicien, quand il cherche à fabriquer des raisonnements, des chaînes de raison, il peut trouver des chaînes de raison efficaces. Par exemple, la démonstration, eh bien ça y est, elle est obtenue. C'est vraiment une démonstration. Mais cela peut ne pas le satisfaire. Ne pas le satisfaire car il y a un je ne sais quoi supplémentaire qui veut que ce soit élégant, comme on disait à la belle époque, il n'y a pas tellement longtemps, comme on peut dire tout simplement beau. Et ces satisfactions-là, le mathématicien les prend comme tout un chacun, c'est-à-dire sans y réfléchir. Et chacun a son esthétique particulière.
La voix de Georges Théodule Gilbaud, mathématicien français sur l'heure de culture française en 1965 sur la RTF. Michael Launay, votre regard, vous aussi, et votre écoute sur cette archive à propos de beauté, de laideur des maths.
Je ne connaissais pas cette archive, mais ça me parle beaucoup, là, tout ce qu'il raconte. Et finalement, c'est le sentiment qui, je crois, anime encore aujourd'hui beaucoup de mathématiciennes et de mathématiciens, ce sentiment de vouloir avoir quelque chose d'élégant. Il parle de création mathématique et il y a vraiment ce sentiment, je pense, qui peut être parfois un peu difficile à percevoir quand on n'est pas spécialiste du sujet, quand on n'est pas vraiment dedans. Mais dès qu'on commence à rentrer un peu dans les détails, dans les mathématiques, et même des mathématiques très simples, il n'y a pas besoin de faire des grandes mathématiques nouvelles de notre époque. On peut vraiment, avec des mathématiques d'école, de collège, rentrer dans cette élégance et se dire que finalement, des fois, parfois, face à un problème, face à une énigme, face à une équation, un calcul, quelque chose à faire, eh bien, il n'y a pas qu'une seule méthode, il y a plein de chemins. Et chacun va un peu prendre le chemin qu'il veut selon sa propre sensibilité. C'est en ça qu'il y a quelque chose de très créatif dans les mathématiques. Tous les gens qui font des mathématiques, tous les mathématiciens vont avoir leur style, ils vont avoir leur façon propre d'en faire. Et ça, c'est quelque chose qui peut commencer vraiment dès l'école. On peut avoir son propre style. Et en ça, effectivement, c'est aller vers l'élégance, aller vers ce qu'on trouve le plus beau. Et discuter de ça aussi avec les autres, il y a une dimension de partage. Comment est-ce que toi tu ferais ça? Comment est-ce que toi tu ferais ça? Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup avec les mathématiques.
Dès l'école, en effet, parce que il y a une de vos vidéos de 2015 qui montre comment, dans l'étape de multiplication qu'on apprend à l'école, quand on les représente graphiquement, ça fait des rosaces qui font des sortes de danses. Vous êtes sensible, en effet, à cette esthétique-là?
Oui, alors il y a plein de façons, effectivement, d'aborder n'importe quel concept. Alors, les tables de multiplication, c'est vrai qu'on les apprend à l'école. Des fois, ça peut paraître un peu austère, mais dès qu'on va se dire, tiens, se poser des questions, les observer un peu plus près. Alors, il y a des façons géométriques. Effectivement, dans cette vidéo, je montrais une façon géométrique de les représenter. Elles se mettent à danser sous nos yeux. C'est absolument magnifique. Et puis même, on regarde un tableau de table de multiplication et puis on observe, on essaye de trouver des schémas, de trouver des motifs, de se dire, tiens, par exemple, dans le tableau des tables de multiplication, il y a beaucoup plus de nombres pairs que de nombres impairs. Pourquoi ? Ça, c'est quelque chose. Alors, on les compte, on se rend compte qu'il y a 75% de l'un, 25% de l'autre. Et alors, on commence à réfléchir, on essaye de trouver une explication. Et puis, petit à petit, on arrive à cette explication, qui est toute simple. Hein. C'est juste que pour avoir un nombre impair, il faut forcément multiplier deux nombres impairs. Alors que pour avoir un nombre pair, on est beaucoup plus libre. Mais voilà, et juste en observant ces nombres dans ce tableau, il y a moyen de trouver des choses qui se dégagent, de trouver des schémas, de se dire mais pourquoi, d'attiser la curiosité. Et cette curiosité attisée va nous donner envie de comprendre.
C'était quoi votre dernier émoi mathématique, Michael Nonnet ?
Oh là là, il y en a pas mal. Là, dernièrement, je suis en train de me renseigner sur une méthode qui a été mise au point au 4e siècle par une mathématicienne d'Alexandrie qui s'appelle Pandrosion et qui a trouvé une méthode absolument superbe pour calculer. Alors, c'est ce qu'on appelle ça la racine cubique de 2. C'est-à-dire qu'un nombre tel que si on le multiplie 3 fois par lui-même, ça donne 2. Et c'est une méthode géométrique où elle trace des figures et c'est très joli, c'est très élégant. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai découvert il y a quelques jours.
Ce sera l'objet d'une prochaine vidéo ?
Oui, totalement. C'est pour ça que je me renseigne dessus en ce moment. J'essaye de mettre les idées en ordre pour en faire une vidéo.
On va parler évidemment de votre travail sur YouTube par le passage la médiation scientifique, mathématique par le biais de cette chaîne et de ce média-là. Mais d'abord, quelques mots sur vos ouvrages et sur les idées que vous véhiculez à travers vos ouvrages. Le dernier, c'est évidemment l'équation de la chauve-souris. Mais il y a d'abord le théorème du parapluie. Dedans, vous dites, ce qui est bien avec les mathématiques, c'est qu'on ne parle pas du réel directement, mais de modèles imaginaires concrets et qui peuvent ensuite s'appliquer au réel. Oui. Ça, l'abstraction, c'est pour vous le cœur de cette passion mathématique ?
Oui, et c'est libérateur, parce que finalement, le réel nous restreint. C'est-à-dire qu'il y a des contraintes dans le monde réel qui font qu'à un moment donné, si on veut vraiment s'y coller parfaitement, eh bien, on n'est pas totalement libre. Avec les mathématiques, dès qu'on fait de la géométrie, on peut prendre une ligne de longueur infinie, c'est pas grave, ça se passe uniquement dans notre esprit, il n'y a pas de souci. Pareil, quand on compte, on peut compter aussi loin qu'on veut, même si on n'a jamais vu autant d'objets dans notre monde, on peut imaginer des milliards, des déciliards, tout ce qu'on veut. Et effectivement, ce côté, on s'abstrait, on invente un monde imaginaire qui existe dans notre esprit, mais qui reste inspiré du réel pour beaucoup et qui nous permet de faire des raisonnements, d'aboutir à des résultats qui, après, quand on les retranscrit dans le monde réel, donneraient des résultats absolument prodigieux. On se dit, voilà, après, on retranscrit, on monte une expérience ou alors on observe dans le ciel à quel endroit devrait être telle planète à tel moment. Et ça marche. Une fois qu'on a fait nos calculs, ça marche. On la voit, la planète, on voit que l'expérience donne ce qu'il faut. Et ça, c'est aussi une source de grande joie.
Sur ce rapport au réel, on invente aussi des nombres négatifs, moins que zéro, donc, mais ce qui n'est pas possible dans le réel.
Oui, c'est vrai, c'est ça. Ça permet de se dire, tiens, là, on a un schéma qui fonctionne bien, on a quelque chose, une règle qui marche bien. Le problème, c'est que ça n'existe pas dans le réel. On ne sait pas ce que ça vaut, mais puisqu'on est dans le monde des mathématiques, eh bien, on va pouvoir se permettre. On va pouvoir se permettre de faire des choses, de se dire, oui, si on descend 4, 3, 2, 1, 0, et après, pourquoi ça s'arrêterait ? Et ça permet d'inventer des choses. On a la même chose en géométrie. Il y a des géométries qu'on appelle des géométries projectives où on se dit... On a notre plan sur lequel on va tracer des figures, mais si on mettait des points à l'infini, c'est les points, par exemple, qu'on voit quand on regarde en perspective, c'est pour ça que ça s'appelle la géométrie perspective. Si vous regardez deux rails de train, eh bien, il y a la perspective qui fait que ces deux rails de train vont se rejoindre à l'infini, alors qu'ils sont parallèles dans le vrai monde. Eh bien, en géométrie, on se dit, inventons un point à l'infini dans lequel ils se rejoindraient, et qu'est-ce que ça donne si on fait cette expérience de pensée ? Et ça donne non seulement des choses très jolies, d'un point de vue purement théorique, d'un point de vue mathématique. Et ça donne des choses qui vont être utiles après si on les applique au monde réel.
Vous citez parfois Bertrand Russell qui dit que la mathématique peut se définir comme la discipline dans laquelle on ne sait pas de quoi on parle, ni si ce qu'on dit est vrai.
Oui, et c'est ça qui fait sa prodigieuse efficacité. Ça, c'est quelque chose vraiment, pour le coup, qui apparaît dès les débuts de mathématiques. C'est même presque l'acte de naissance des mathématiques, le moment où, en Mésopotamie, il y a 5000 ans, quand on commence à écrire et quand on commence à tenir des comptes de choses, eh bien, au début, les nombres, les symboles des nombres vont dépendre de ce qu'on compte. C'est-à-dire qu'il va y avoir un symbole pour dire, disons, 5 moutons, puis un symbole pour dire 5 unités d'orge ou quelque chose comme ça. Et au bout d'un certain temps, on voit apparaître ce côté, cette dissociation du nombre avec l'objet qu'il compte. Et donc, on va avoir un nombre, un symbole qui va symboliser le nombre 5, qui va être le même pour tout ce qu'on compte. Et on va mettre le nombre 5 suivi du symbole du mouton, le nombre 5 suivi du symbole de l'orge. Et ça, c'est valable pour absolument tout. Et avec ça, eh bien, on peut commencer à faire des calculs et dire 2 plus 3 égale 5. Qu'est-ce que je suis en train de compter? J'en sais rien. Et peu importe, en fait, ça fera toujours 5, peu importe ce qu'on compte. Et ça, c'est, voilà, on ne sait pas de quoi on parle. On ne sait pas de quoi on parle, mais ça marche quand même et c'est magnifique.
Ça, c'est quelque chose aussi que vous racontez dans le grand roman des maths de la préhistoire à nos jours, paru oui. chez Flammarion en 2016. Rappelez le contexte historique, comment justement est apparu le nombre, la géométrie, pourquoi et comment dans l'histoire de maths. C'est aussi quelque chose qui nous permet de mieux les appréhender.
Oui, complètement, parce que justement, il y a ce côté abstrait qui souvent peut aussi avoir un aspect un peu lointain, de dire mais pourquoi on fait ça? Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, on a envie de résoudre tel type d'équation? Pourquoi est-ce qu'on invente ce type de calcul? Pourquoi est-ce qu'on utilise des fractions, de n'importe quel concept qu'on voit à l'école? On peut se dire mais pourquoi? Alors que quand on se remet en contexte, c'est rarement juste pour le plaisir d'inventer des choses compliquées, il y a souvent une raison derrière ça. Il y a souvent un problème auquel sont confrontées les personnes de ces époques. Et pour résoudre ce problème, bien la nécessité de l'outil mathématique se fait sentir. Et quand on comprend cette nécessité, d'un seul coup, ça coule naturellement. C'est-à-dire, on se dit voilà pourquoi on l'a inventé, donc voilà pourquoi ça vaut le coup à notre tour de se l'approprier.
Il y a un concept que vous avez inventé, que j'aime beaucoup, qui s'appelle donc le théorème du parapluie. Qu'est-ce que cela signifie, Michael Launay?
C'est quelque chose qui signifie, alors c'est un principe qui est beaucoup utilisé en mathématiques et à plusieurs niveaux, dans plusieurs domaines, c'est vraiment un principe très général et qui peut même devenir un principe un peu plus général qui s'étend hors des mathématiques. Qui
consiste métaphore qu'on peut appliquer même dans les sciences de façon globale.
Voilà, c'est ça. C'est l'idée que des fois, eh bien pour mieux comprendre un sujet, il faut faire un pas de côté, se mettre dans des conditions différentes. Et c'est le cas, ça s'appelle le théorème du parapluie, parce que si vous voulez aller d'un point A à un point B mais qu'il pleut, au lieu de juste marcher du point A au point B et de finir mouillé, vous ouvrez d'abord votre parapluie, puis vous faites votre marche et vous fermez votre parapluie. Et l'opération de début et de fin s'annule l'une l'autre, c'est comme un nombre positif ou négatif. Ouvrir le parapluie, fermer le parapluie, ça peut sembler juste être revenir à ne rien faire. Mais parce qu'on a fait le premier avant l'action et le deuxième après l'action, eh bien finalement ça sert à quelque chose. Et c'est le même principe quand on... Voilà ce dont on parlait il y a un instant sur la modélisation du monde réel. On a notre monde réel, ça peut être compliqué de le comprendre. Alors on ouvre notre parapluie mathématique, on modélise notre monde réel par des outils mathématiques. Et puis là, on fait notre petit chemin, on se promène sous notre parapluie mathématique. Et c'est beaucoup plus facile à faire, c'est beaucoup plus agréable parce que y a certaines choses qui fonctionnent mieux, parce que justement, on est beaucoup plus libre. Et puis, une fois qu'on a fini notre raisonnement, eh bien, on va fermer notre parapluie, on interprète ça en termes de monde réel. Et là, on a notre résultat.
Il existe plein d'exemples qui utilisent en mathématiques justement ce théorème du parapluie.
Ah oui, il y en a des masses. On l'utilise par exemple même pour résoudre un Rubik's Cube. Les gens qui résolvent le Rubik's Cube utilisent très souvent le théorème du parapluie. Ils veulent bouger un coin, disons, d'un endroit à un autre, mais ils veulent le faire sans déplacer toutes les pièces. Alors comment est-ce qu'on fait? On fait un mouvement qui fait le déplacement inverse sur les pièces qu'on ne veut pas bouger. Puis après, on fait le déplacement de notre coin. Et puis après, on revient à l'envers. Et bon, alors, c'est évidemment, sans voir le Rubik's Cube, c'est pas très facile à visualiser. Mais ça permet d'avancer et de placer les pièces où on veut sans bouger toutes les autres.
C'est ce qu'on appelle aussi les problèmes de pavage.
Les problèmes de pavage.
Ah, celui, vous savez, avec un échiquier, un domino, les problèmes, si on retire de quoi opposer, pour faire ce type de calcul, quand vous parlez justement de changement de perception.
Ah oui, alors ça, effectivement, c'est. Alors, je ne sais pas si le théorème du parapluie s'applique directement dans ce cas de figure, mais effectivement, il y a le côté, des fois, là, on parlait d'élégance en mathématiques. C'est un problème. Donc, le problème, je crois, auquel vous faites référence, c'est on prend un échiquier 8 x 8 et on essaye de le paver entièrement par des dominos, qui sont composés de deux cases carrées. Et alors, si c'est 8 x 8 comme ça, c'est simple, on prend 32 dominos et on y arrive facilement. Mais si on enlève juste deux coins opposés, eh bien, on peut essayer beaucoup et on n'y arrive plus. Alors, on se dit, mais comment ça se fait? Est-ce qu'on a mal mis les dominos? À la fin, il y a toujours un problème. Les deux dernières cases, on n'arrive pas à poser le dernier domino dessus parce qu'elles ne sont pas l'une à côté de l'autre. Et là, il y a un éclairage qui peut nous venir, c'est de dire, imaginons que l'échiquier, on regarde les cases blanches et les cases noires. Et bien, quand on pose un domino, il recouvre forcément une case blanche et une case noire. Donc, pour pouvoir faire un pavage, il faut qu'il y ait autant de cases blanches que de cases noires. Or, si on retire les deux coins d'un échiquier, on a retiré deux cases de la même couleur, donc il n'y a plus le même nombre de cases blanches et de cases noires. Donc, c'est un problème assez classique d'élégance en mathématiques où, effectivement, on peut beaucoup galérer sur un problème. Et il y a le petit twist, le petit haha, on a compris, qui fait que juste en deux secondes, eh bien, le problème va se débloquer.
Les mathématiques se logent-elles partout ailleurs que dans les Rubik's Cube et les dominos? Oui, et on vous raconte pourquoi. Restez avec nous.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
En direct sur France Culture, nous nous entretenons tout au long de cette heure avec Michael Launay, qui se considère lui-même un peu comme un montreur de maths. On vient de voir que, selon vous, hein, c'est cette abstraction des mathématiques qui fait l'identité de cette discipline, et c'est pour ça que les mathématiques sont élégantes. Vous venez de publier l'équation de la chauve-souris de la poussée d'Archimède à la physique quantique. Il y a question du fonctionnement des aspirateurs, la théorie du chaos, encore du fonctionnement des embouteillages. En fait, tout ça part des observations du quotidien, des petites choses qu'on a comme ça sous notre nez, qui nous semblent anodins, triviales, et puis, en grattant de plus en plus, il y a de la maths.
Oui, c'est ça, c'est souvent comme ça que ça part. On observe quelque chose qui nous paraît comme anodin, qui nous paraît parfois même évident. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on a tous les jours à côté de nous, et puis on se pose plus la question, parce qu'à force de le voir, ça nous paraît juste naturel. Et puis, des fois, il suffit de se dire, mais est-ce que je comprends vraiment ce qui se passe là? Vous parliez des aspirateurs, le livre s'ouvre là-dessus, sur comment fonctionne un aspirateur. Et effectivement, on appuie sur le bouton, enfin on branche, on appuie sur le bouton, il y a l'hélice qui se met en route, et puis d'un seul coup, les miettes qui sont au bout du balai, là, du tube, commencent à se rapprocher et à être aspirées à l'intérieur du tuyau. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui les met en mouvement concrètement? Alors on se doute bien que l'hélice qui s'est mise à tourner a créé quelque chose. Mais comment? Quelle chaîne de réaction? Parce que, a priori, si l'hélice se met à tourner, on peut se dire qu'elle va propulser, de la même manière qu'une raquette de tennis va taper dans une balle de tennis, elle va propulser au loin toutes sortes de petites particules qui sont à sa portée. Mais donc là, on a des particules qui vont s'éloigner quand elles vont être frappées. Mais comment ça se fait qu'il y a des particules qui vont venir se rapprocher? Ça, c'est une question, quand on creuse, c'est pas évident, on se demande comment ça marche. Et donc, c'est le début d'une quête, le début d'une aventure où on va creuser, on va essayer d'apprendre des choses, et puis petit à petit, on se dit qu'il faut comprendre un peu mieux comment fonctionne l'atmosphère, de quoi il est composé, comment il va réagir quand on le soumet à différentes contraintes. Et il y a des mathématiques qui arrivent derrière, il y aura des probabilités, des statistiques. Il va y avoir différents grands savants de l'histoire qui ont petit à petit font avancer cette histoire. Et puis à la fin, on a une réponse. On comprend enfin pourquoi ça marche. Mais c'est toute une quête qui nous fait arriver à ce point-là et qui nous amène finalement à comprendre des grandes théories à partir d'une petite observation.
Voilà, de l'aspirateur à la salle de bain, je vous propose un extrait et une lecture de votre ouvrage. Comme la plupart des enfants, j'ai appris à l'école que la matière avait trois états, solide, liquide et gazeux, et que les changements d'état se faisaient à des températures précises, qui varient selon la matière. Par exemple, l'eau est glacée, c'est-à-dire solide, en dessous de 0 degré, puis devient liquide entre 0 degré et 100 degrés gazeuse, au-delà de 100. Ce dont je me souviens également, c'est d'avoir été convaincu pendant très longtemps que ces états étaient intrinsèques. Autrement dit, il s'agissait d'une propriété propre à la matière concernée et qui ne dépendait pas de ce que faisait le monde autour d'elle pendant ce temps. Ceci est vrai pour les solides et les gaz, mais pas pour les liquides. Un liquide ne peut pas exister tout seul, sans recevoir un coup de pouce de son environnement. Un liquide, c'est en quelque sorte un gaz comprimé, un gaz sous pression. Il s'agit d'un état dans lequel les particules qui composent la matière sont trop agitées
pour rester collées les unes aux autres et auraient spontanément envie de se séparer si elles n'étaient pas écrasées les unes contre les autres par la pression extérieure. Dès qu'un liquide apparaît dans notre quotidien, il est façonné par la pression atmosphérique. Quand vous ouvrez le robinet de votre cuisine, le filet d'eau ne se contente pas de tomber librement sous l'effet de la gravité. En réalité, l'eau doit se frayer un chemin à travers l'air qui la comprime. Et c'est cet air qui façonne sa forme cylindrique et l'empêche de s'évaporer instantanément.
Voilà pour l'extrait. On entend déjà, il y a pas mal de maths, mais il y a aussi pas mal de sciences physiques, Michael Launay.
Oui, c'est même un mélange entre les deux. C'est vraiment, j'essaye de les faire communiquer, puis finalement de les mélanger. On passe toujours de l'un à l'autre. C'est-à-dire que la science physique nourrit les mathématiques par les questions qu'elles amènent. Et puis, les mathématiques, de leur côté, apportent à la fois des théories, des solutions, et puis d'autres questions. C'est-à-dire, des fois, on va se dire, mais en mathématiques, il se passe tel phénomène qu'on n'a jamais observé dans le monde réel. Est-ce que si on réalise telle expérience, en fait, ça va marcher? Et des fois, on découvre aussi des choses sur le monde comme ça, et les deux vont se nourrir.
Oui, dans le théorème du parapluie, vous terminez avec le théorème de la relativité, dans celui-ci, sur la physique quantique.
Oui, c'est ça. En fait, c'est l'idée de faire une progression dans ce livre, où en prenant, en partant toujours de petites choses du quotidien, ben, petit à petit, on va finir par aller assez loin, jusqu'à une des théories principales de notre époque pour expliquer l'univers, qui est la théorie de la relativité.
Alors pourquoi la chauve-souris? J'ai lu quelque part que vous dites que c'est comme un animal totem pour vous.
Oui, tout à l'heure, on parlait du théorème du parapluie qui finissait par la théorie de la relativité, et dans l'équation de la chauve-souris, cette fois, c'est la deuxième grande théorie scientifique qui est le point final de ce livre-là, qui est la physique quantique. Et la chauve-souris, je l'ai choisi comme animal totem pour ce livre parce que c'est un animal qui, d'une certaine manière, fait rien comme les autres et qui, pour lesquels, pour essayer de le comprendre, il faut toujours regarder un peu les choses à l'envers. Et il dort à l'envers, et la tête en bas, et il va vivre la nuit et dormir le jour. Il va se localiser avec ses oreilles au lieu de le faire avec ses yeux, même s'il y a un peu des deux. Et donc, il y a beaucoup de choses qui fonctionnent à l'envers. Et en science, parfois, il y a des phénomènes comme ça, que j'appelle des phénomènes chauve-souris, où, pour les comprendre, eh bien, il faut les regarder à l'envers, ou les regarder en négatif. C'est-à-dire qu'il ne faut pas regarder ce qui apparaît évident, mais il faut regarder plutôt le vide autour de ce qui est évident, parce que c'est lui qui va nous faire comprendre quelque chose.
Comme quoi, par exemple, les embouteillages, ça, c'est un exemple de regard en négatif pour comprendre un phénomène.
Les embouteillages, alors quand on est dans les embouteillages, on a tous un peu expérimenté ce phénomène d'embouteillage en accordéon où on avance, on s'arrête, on avance, on s'arrête, on avance, on s'arrête. Mais quand on regarde de haut, eh bien, on se rend compte qu'il y a les voitures, elles, vont à un rythme très irrégulier, avec des arrêts et des moments où ça avance et des moments où ça s'arrête. Mais si on regarde les bulles dans l'embouteillage, si l'embouteillage est assez dense, eh bien on se rend compte qu'elles vont évoluer beaucoup plus facilement et beaucoup plus régulièrement.
Trous entre les voitures, l'espace entre les deux, c'est ça qu'il faut regarder, non pas les voitures.
C'est ça, on regarde l'espace entre les voitures et non pas les voitures. Et là, d'un seul coup, on les voit qui se déplacent et qui se déplacent à contre-courant. C'est-à-dire que quand on a une bulle, eh bien, les voitures qui sont devant cette bulle vont venir la combler parce qu'enfin elles peuvent avancer et donc vont à leur tour laisser un trou qui va être à contre-sens de la circulation. Donc le trou, il va avancer dans l'embouteillage à contre-sens de la circulation. Et en le regardant, eh bien, on a quelque chose qui est beaucoup plus simple à étudier finalement que les voitures individuellement.
Mais ça fonctionne exactement comme les bulles dans un verre de champagne. Pourquoi montent-elles?
Oui, c'est ça. Là, c'est une analogie, et ça, c'est quelque chose que j'aime bien faire aussi. C'est-à-dire que quand je choisis les sujets dont je vais parler, je me dis pas j'ai absolument envie de parler ça, mais j'aime bien faire des liens, parce que ce qui est important aussi, c'est de se dire des fois, il y a des choses qui ont l'air d'avoir rien à voir les unes avec les autres. Puis on fait une analogie, on se dit « Ah, mais ça fonctionne de la même manière ». Et finalement, c'est ce fonctionnement, c'est le rapport que les choses entretiennent entre elles qui est plus important que finalement les choses en elles-mêmes et qui, en tout cas, nous donne un sentiment de compréhension un peu intime des choses. Et donc, effectivement, de la même manière que les voitures veulent avancer sur une route, eh bien, quand on a un liquide, par exemple, effectivement, un verre de champagne, eh bien, les gouttes de champagne ou les gouttes d'eau vont vouloir descendre vers le bas parce qu'elles sont soumises à la gravité, donc qui les fait tomber. Et parce que les gouttes, donc les petites parcelles de liquide veulent aller vers le bas, eh bien, du coup, les endroits où il n'y a pas de liquide, donc les petites bulles de champagne, elles, vont remonter à contre-courant, de la même manière que les bulles dans les embouteillages remontent à contre-circulation.
Il y a plein d'objets, en effet, comme ça, qu'on peut regarder avec cet œil mathématique. Et pour cette émission, Michael Launay, vous nous avez préparé une expérience radiophonique, justement, pour aussi illustrer une des parties de votre ouvrage. Et on a un son, on en a même quatre en tout. Donc, on a celui-ci qu'on peut écouter tout de suite.
Alors ça, c'est, si parmi les auditeurs, il y en a qui ont l'oreille musicale, je ne sais pas si vous reconnaissez la note, c'est un la. Moi non plus, je ne la reconnais pas parce que je n'ai pas du tout l'oreille musicale. Et ça, c'est quelque chose que je raconte, qui d'une certaine manière me met moi aussi parfois dans la situation de ne pas comprendre. Parce que j'ai souvent eu des conversations avec des musiciens sur la façon dont ils percevaient la musique. Et moi, je n'ai pas l'oreille, il y a des choses que je n'entends pas. Et il y a quelque chose qui m'a notamment toujours étonné, c'est le fait, par exemple, que sur un piano, ou sur enfin, n'importe quel instrument de musique, les notes tournent en rond. On a Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, on revient à Do, puis ça tourne en rond. Et pourquoi est-ce qu'on a comme ça des notes qui portent le même nom? Comment ça se fait que, alors qu'il y en a des plus aigus, des plus graves? Si on a deux La consécutifs, il y en a un qui est plus aigu et un qui est plus grave. Et pour les gens qui ont l'oreille, ça paraît évident que c'est la même note. Moi, ça m'a jamais paru évident. Là, par rapport à un si ou par rapport à un do, il y en a juste des plus aigus et des plus graves. Et ça, pour le comprendre, eh bien, justement, en étudiant le phénomène physique, en comprenant comment fonctionnent ces notes de musique, eh bien, on a une explication. Et en fait, un la, c'est une vibration de l'air. Et donc là, ce qu'on vient d'entendre, c'est une vibration. Donc l'air vibre dans nos tympans. C'est ça qui fait qu'on entend un son. Et il vibre 440 fois par seconde. Donc c'est ce qu'on appelle le la 440. Cette vibration dans le son qu'on vient d'entendre, elle est très régulière. C'est-à-dire qu'elle elle fait des bosses, elle monte, elle descend, elle monte, elle descend. Un peu comme des vagues sur l'eau qui sont très douces, très, très arrondies. Mais on peut avoir d'autres la qui vont avoir des formes différentes. Et ça, c'est ce qui va changer le timbre du la. Par exemple, si on écoute le deuxième son. Ça, c'est aussi un la. Et alors, ce n'est pas un instrument de musique qui l'a créé, c'est un la que j'ai créé justement pour le livre. Et c'est ça qui est bien à la radio, c'est que je peux faire écouter quelque chose que je ne peux pas faire écouter dans le livre. C'est un la chauve-souris. C'est-à-dire que si on trace la courbe de pression de l'atmosphère, la façon dont nos tympans vibrent en écoutant ce son, eh bien ça trace un petit profil de chauve-souris. Donc là, en écoutant ce son, tous, vous avez vos tympans qui ont vibré en traçant dans l'air un petit profil de chauve-souris avec ses deux petites oreilles, avec sa petite tête. Et ça traçait ça dans l'air. Et donc, ce qui fait qu'un la est un la, c'est pas le motif particulier, mais c'est le fait que ça vibre 440 fois par seconde. Et il y a quelque chose d'assez étonnant, c'est que si on prend un la qui vibre 880 fois par seconde, eh bien, finalement, il vibre aussi 440 fois par seconde. C'est-à-dire que si on a un phénomène, si on prend par exemple la Lune, elle revient pleine tous les 29 jours, eh bien, si elle revient pleine tous les 29 jours, elle revient aussi pleine tous les 58 jours. Et donc, si on a un la 880, certes, il vibre 880 fois par seconde, mais il va aussi vibrer 440 fois par seconde. Et donc, un la qui est une octave au-dessus, eh bien, c'est un cas particulier, un timbre particulier de la 880, c'est un cas particulier de la 440. Et c'est pour ça, en fait, qu'on va pouvoir se dire que ces deux notes, il est pertinent qu'elles portent le même nom. Et donc, justement, pour entendre ça, j'ai pris deux petits dégradés. Donc là, les deux dégradés qu'on va entendre, ils partent toutes du la 440 et ils arrivent tous au la 880. Le premier, c'est en augmentant la fréquence, donc en changeant progressivement la note, comme si on les jouait sur un piano. Ah oui, voilà. Donc on est parti du la 440, on est arrivé au la 880, et on a senti que c'était de plus en plus aigu. Et le deuxième, voilà. Là, on est donc le point de départ et le point d'arrivée sont les mêmes, mais cette fois, pendant toute la progression, on a eu que des la 440, On a juste changé le timbre petit à petit. Et donc, cette deuxième progression, c'est celle qui illustre le fait que, eh bien, malgré le fait que ce n'est pas la même touche sur un piano, eh bien, c'est bel et bien la même note et il est pertinent de les appeler de la même façon.
Eh bien, on va continuer de voir comment il existe plein de façons différentes de faire des maths, même avec des la de chauve-souris. Restez avec nous. De Téléphone Jim Jesus en direct sur France Culture, car nous parlons de mathématiques que nous faisons tous partout sans le savoir. On en parle avec Michael Launay, mathématicien, créateur de la chaîne scientifique Micmath, auteur d'ouvrages de vulgarisation et de l'énigme math pour le journal Le Monde. On parle donc de votre ouvrage, L'équation de la chauve-souris, où on passe de la physique quantique tout en évoquant la cuisson des coquillettes, les tympans des chauves-souris, mais on va aussi parler de vos vidéos sur votre chaîne YouTube. Tout ça, hein, cette diffusion de la connaissance scientifique, ça passe aussi par des activités de médiation et on continue d'en parler avec vous pour le reportage du jour. Bonjour Alexandre Borès.
Bonjour Natacha.
Vous avez assisté à une séance de médiation de mathématiques aux étincelles du Palais de la Découverte.
Oui, c'est un lieu temporaire, situé dans le 15e arrondissement de Paris qui accueille exclusivement les activités de médiation scientifique en attendant la réouverture du Palais de la Découverte. Les enfants de tous âges peuvent venir y découvrir des ateliers et des exposés sur 6 disciplines différentes et pour l'occasion j'ai suivi une classe de CM2 au cours d'une séance de médiation de mathématiques. Pendant près d'une heure, la médiatrice Noëlle Krachmann s'est efforcée de cultiver l'amour des maths chez ses élèves de primaire à travers divers jeux de calcul. Alors préparez-vous, c'est l'heure de la récréation mathématique.
Qu'est-ce que ça fait en mathématiques, une mathématicienne à votre avis ?
Ouais, ça calcule des opérations.
Ça fait calcul ? Ouais, ça fait des opérations. Ça va faut réfléchir, ça c'est bien, on va pas réfléchir en durant là.
Il fait des problèmes.
Oui, il résout des problèmes, je suis totalement d'accord.
Au sein même des scolaires, on a un public très très diversifié parce qu'on peut avoir des écoles plus privilégiées que d'autres et les élèves ne vont pas avoir la même réaction face aux mathématiques. Il y en a, leurs parents travaillent dans les mathématiques, donc ça va leur paraître moins loin, alors que pour d'autres enfants, les mathématiques, ce n'est pas dans leur culture, ils ne parlent même pas de ça chez eux. Et les seules mathématiques qu'ils connaissent, c'est celles qu'ils voient à l'école, et donc pour eux, les mathématiques, c'est forcément du calcul et rien d'autre. Et donc, il y a vraiment une approche différente à avoir en fonction de d'où viennent les enfants et quelles idées ils ont au départ. Et c'est pour ça que souvent, au début de la séance, on demande leur notion sur les mathématiques pour ensuite s'adapter. Là, ceux qui ont été interrogés, interviewés, c'est des petits, des CM2. Le but de cette séance, c'était que les enfants puissent, à travers un jeu, essayer de réfléchir comme un mathématicien ou une mathématicienne. Et voilà, se sentir capable. Et alors, ce problème, c'est sous forme de jeu. C'est un défi un peu facile au début qui va se complexifier au fur et à mesure. Mais il va se complexifier à force d'observation, de questionnement, pour essayer de trouver, par exemple, toutes les solutions du problème, ce que font souvent les mathématiciens.
Il y a deux grands jeux en fait qui ont été faits.
Le premier jeu, c'est le jeu qui s'appelle le carré gréco-latin, où en fait, il y a des pièces à mettre de façon à ne pas avoir la même couleur et la même taille sur les lignes et les colonnes. Et il faut faire attention à ces deux variables.
C'est
voilà.
Une espèce de sudoku.
C'est une espèce de sudoku. Et à travers ce problème, du coup, c'est essayer de démontrer avec ses propres mots et essayer d'y arriver vraiment pas à pas.
Et le second jeu, c'est le triangle magique, c'est ça ?
Ah oui, le second jeu, on l'appelle le triangle magique. Il y a un triangle, il faut mettre les pions dans les cases de façon à avoir la même somme sur chaque côté du triangle.
Alors, moi, j'ai ma somme, déjà, c'est 9. En fait, j'ai fait 3 plus 5 plus 1, ça fait 9. Après, dans l'autre colonne, juste en face, j'ai fait 3 plus 4 plus 2, ça fait aussi 9. Dans la ligne du bas, et ben j'ai fait 2 plus 3 plus 6, 2 plus 6 plus, voilà. Des trois côtés, ben, ça m'a fait 9 et voilà, j'ai fait un carré magique ou un triangle magique.
Et alors, vous me disiez que le but de ces exercices avec les enfants, c'est de leur montrer qu'ils sont capables. J'ai l'impression que ça marche plutôt bien.
Alors, en primaire, il y a un engouement pour tout. Ils sont très curieux. Ça va un peu s'estomper au collège.
C'est ma matière préférée.
Moi, c'est ma matière préférée, les maths, je trouve ça.
Ah ouais. J'adore.
Tout le monde adore les mathématiques ici.
Ouais, j'adore tout le monde.
Ah ouais, pourquoi ça vous plaît autant?
Parce que
moi, j'adore additionner.
Faire des calculs. Et voilà. Ouais, moi aussi, j'adore faire les calculs.
C'est très intéressant.
Ça demande la réflexion.
Par contre, il y a eu des études qui montrent que dès la primaire, il y a quand même une distinction quand même qui se fait entre les filles et les garçons. Et paraît-il, plus généralement, les filles aiment de moins en moins les maths. Alors, on fait attention à ça au musée. On essaye d'interroger filles et garçons. On parle de sujets, on va dire, mixtes. Donc, par exemple, les jeux, ils sont totalement mixtes. Si on parle d'un sujet un petit peu plus garçon, comme le ballon de foot, on a aussi des sujets un peu plus, on va dire, filles, typées, qu'on va dire, filles, qui sont plus les tresses. Et c'est assez drôle parce que, justement, par exemple, les tresses, les filles vont avoir beaucoup plus de facilité à comprendre le problème et à raisonner autour de ce problème parce qu'elles sont plus habituées à manipuler cet objet. Et donc, ça les met aussi un peu plus en avant.
Est-ce que vous avez des difficultés avec certains élèves et comment vous appréhendez ces difficultés-là s'il y en a ?
La plus grosse difficulté envers les mathématiques, c'est justement la confiance en soi, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'apprécient plus les mathématiques ou qui se sentent illégitimes face à cette science. Et donc, nous, en tant que médiateurs dans cette discipline-là, notre plus grande difficulté, c'est de les remettre en confiance. Et disons que c'est surtout ça la priorité. Une fois qu'ils sont mis en confiance, ils peuvent commencer à réfléchir, ils peuvent commencer à avancer pas à pas.
En fait, il faut placer les cylindres sans faire la même couleur et sans faire la même forme de largeur. Par exemple, là, j'ai mis deux grands cylindres. Du coup, c'est faux et du coup, c'est pas bon.
Deux grands cylindres dans la même ligne.
Mais là, là aussi, j'ai faux parce que c'est la même couleur, mais pas la même taille. Du coup, c'est faux. Alors, du coup, par exemple, là, j'ai bon parce que
il y a trois couleurs.
Un moyen bleu, un grand rouge et un petit jaune.
Au Palais de la Découverte, en mathématiques, on propose différents ateliers. Cet atelier, donc, il repose surtout sur les jeux. On transmet très peu de contenu. Le but, c'est plutôt de se mettre dans la peau donc, d'un chercheur pour découvrir ce qu'est la recherche. On a aussi d'autres types d'ateliers et d'exposés qui, là, vont expliquer plus du contenu mathématique. On va parler de sujets très particuliers comme le nombre pi, l'infini, le hasard ou autre.
La maîtresse, 1, 4, 5, va voir dans la maîtresse, elle est là.
Pour mettre en confiance le public, on essaye d'utiliser plusieurs formats. Il y en a les jeux, ils vont pas du tout être confiants avec ça. Il va falloir manipuler des pions, ils sont pas à l'aise ou ils aiment pas jouer. Mmh. Parfois, on va aussi utiliser plus du contenu oral. Et donc, quand on va construire une médiation, on va s'intéresser à quel format au pluriel on va utiliser durant l'exposé pour que ce soit très diversifié et que ça puisse intéresser un très large public.
Est-ce que vous avez l'impression d'avoir réussi à résoudre les jeux ?
Oui.
ben, tout ce que vous avez fait là, recherchez des solutions, essayez de se poser des questions, essayez d'échanger entre nous. Ça, c'est tout le travail du mathématicien ou de la mathématicienne.
Merci Alexandre Morales. Et puis pour votre information, le Palais de la Découverte, réouverture prévue, c'est officiel le 6 juin 2025 à Paris. Michael Launay, une réaction à cet atelier du Palais de la Découverte ?
Oui, il y a quelque chose de... Il y a plusieurs choses importantes qui ont été dites. Là, d'ailleurs, j'en profite parce que on entend donc la médiatrice du Palais de la Découverte, là, Noël, qui parle dans ce reportage et qui fait aussi des vidéos sur Instagram et sur TikTok sur un compte qui s'appelle Histoire curieuse de mathématiques. Je crois que je crois que c'est ça. Et qui sont formidables aussi. Donc, parce que c'est bien aussi de parler de mathématiques via l'histoire, d'incarner un peu ces choses-là. Et dans le reportage, on entend parler de pas mal de choses, notamment de manipulation. De faire par soi-même, de pouvoir toucher, de pouvoir utiliser du matériel. Ça, c'est quelque chose qui est aussi très important pour pouvoir s'approprier des idées. On a beaucoup parlé au début de l'émission du fait que c'était abstrait, que ça se passait dans la tête et que ça offre un espace de liberté. Mais il ne faut pas pour autant s'interdire des outils en comptant avec les doigts, en ayant du matériel, voilà, qui permet quand même d'accrocher un peu ces raisonnements qu'on va faire et qui vont permettre d'amorcer des choses qui après peuvent aller plus loin. Et puis ce côté de chercher par soi-même, d'avoir des problèmes, voilà, qui sont simples au début, et puis hop, on va rajouter un petit détail, ça devient un tout petit peu plus compliqué, mais comme on a réussi le premier, on se dit qu'on va réussir le deuxième, et puis on rajoute de plus en plus de détails, et puis petit à petit, on va prendre confiance en soi, et c'est aussi comme ça qu'on va rentrer dans les mathématiques et qu'on va pouvoir les apprécier. Il ne faut pas faire tout de suite des choses trop compliquées sur lesquelles on va galérer très longtemps. Ça vient après. Mais justement, c'est en progressant petit à petit, en prenant les choses par étapes, en découpant les problèmes compliqués en plusieurs problèmes petits plus simples qu'on va réussir à se motiver des fois quand on se demande comment on va aborder un problème.
Ouais, vous dites dans une interview, pour que les maths soient appréciées, il faut mettre du sens. L'enseignement est beaucoup trop axé sur la technique et le calcul, alors que le calcul est aux maths ce que l'orthographe est à la littérature.
Oui, alors quand je dis l'enseignement, ça c'est peut-être
la médiation,
en général
le partage de de cette discipline.
Oui, c'est quelque chose large. En fait. Je sais plus quand j'avais dit ça, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup de profs ces derniers temps qui introduisent ça aussi dans leurs cours. Et effectivement, c'est très important de comprendre ce qu'on fait, c'est-à-dire que ce soit par l'histoire, que ce soit par le jeu, que ce soit par les motivations qui vont nous amener à se pencher sur un problème. Et effectivement, si on regarde uniquement le côté technique, c'est agréable. J'ai envie de dire pour personne. Si ça peut être agréable pour certaines personnes, mais ça peut pas l'être pour tout le monde. C'est de la même manière qu'un écrivain, quand il fait un livre, il se dit pas j'ai fait des belles phrases avec tous mes verbes bien conjugués comme il faut. Et ce qui est important, c'est l'histoire qu'on raconte avec ça. Donc oui, c'est pareil en mathématiques. C'est important de savoir faire des calculs, mais c'est pas le fond.
J'aimerais bien qu'on arrive à ce moment de l'entretien où on peut parler de votre histoire à vous et de la passion des maths, de comment tout ça s'est né, puisque donc vous êtes né le 25 septembre 1984 à La Rochelle, et enfant, vous rêviez d'être astrophysicien. Comment vous êtes passé aux maths ?
Alors, les deux sont assez liés. Ça reste, on est dans le domaine scientifique. Moi, c'est vrai que quand j'étais petit, j'étais fasciné par les étoiles, par l'univers, voilà. J'écoutais pendant des heures Hubert Reeves qui parlait de ça. Et je crois que ça a été une grande inspiration dans ma volonté d'aller vers les sciences. Et je crois que si dans ma tête à ce moment-là les maths n'étaient pas une option, c'est parce que je me rendais pas compte de ce que c'était les maths et des champs que ça pouvait pouvait ouvrir. Je savais pas qu'il existait quand j'étais au collège. Je savais pas qu'il existait des mathématiciens, des mathématiciennes encore à notre époque qui cherchaient, qu'il existait encore des choses qu'on ne savait pas. Je me disais que j'allais étudier les maths jusqu'à un certain âge et puis à un moment donné, je connais toutes les maths. Maintenant, faut les appliquer à une autre science. Et ça, c'est au lycée que j'ai eu le déclic et que je me suis rendu compte, que j'ai appris, que j'ai vu avec dans des livres, à travers un club de jeux mathématiques auquel je participais aussi à l'époque. Et à ce moment-là, je me rends compte qu'il existe effectivement des problèmes qui sont encore ouverts aujourd'hui. Qu'en fait, c'est pas juste quelques problèmes qui résistent, mais c'est vraiment beaucoup de grands problèmes. Que les mathématiques n'ont jamais été aussi vivantes qu'à notre époque. Qu'il y a des dizaines de milliers de chercheurs qui tous les jours se cassent la tête pour essayer de comprendre comment fonctionne quelque chose, qui sont curieux, qui échangent entre eux. Et donc là, effectivement, les mathématiques ont commencé à devenir quelque chose de plus palpable pour moi, de plus abordable. En tout cas, une direction sur laquelle il pouvait y avoir plus de perspectives. Et à partir de ce moment-là, effectivement, je me suis mis à envisager ça comme une option pour la suite et ça l'a très vite emporté.
De plus palpable, en effet, puisqu'en 2012, vous soutenez votre thèse dans le domaine des probabilités. Elle est titrée « Urne interagissante ». Vous avez fait donc votre thèse sur ce qu'on appelle des processus de hasard renforcé.
Oui, c'est ça. C'est le hasard renforcé, c'est d'une certaine manière... du hasard qui prend des habitudes. Vous voyez, si on prend un dé si on prend une pièce et qu'on lance à pile ou face, eh bien on peut lancer la pièce 100 fois de suite, elle va faire pile, face, une fois sur deux, en gros. Et puis le 101e lancé, elle fera toujours une chance sur deux pile, une chance sur deux face, elle n'aura rien changé, elle n'aura rien appris d'une certaine manière. C'est un peu bête, une pièce de monnaie. Mais des fois, dans le monde réel, on voit des phénomènes qui, au fur et à mesure, qui sont aléatoires au début, puis qui, au fur et à mesure, apprennent des choses, se souviennent de ce qu'ils ont fait. Un des exemples classiques, c'est... alors, je n'ai pas travaillé sur ça dans ma thèse, parce que j'étais vraiment sur les mathématiques, donc sur la partie abstraite, mais c'est les fourmis. C'est-à-dire que vous avez une fourmilière, et puis vous avez des fourmis qui commencent à sortir, et puis les premières qui sortent de la fourmilière, elles ne savent pas où elles vont, elles ne savent pas où il y a de la nourriture, elles ne savent pas quels sont les chemins qu'il faut emprunter, donc elles se déplacent de manière un peu aléatoire, elles explorent. Puis à un moment donné, il y en a une qui va trouver quelque chose d'intéressant, qui va revenir à la fourmilière, et sur le chemin du retour, elle va laisser une trace de phéromone en disant... Si vous passez par là, sachez que sur ce chemin, il y a un truc intéressant. Et puis, deuxième fourmi qui sort, peut-être qu'elle ne va pas voir le chemin, elle va continuer à se balader un peu aléatoirement. Et puis, elle va peut-être trouver autre chose. Et puis, petit à petit, vous avez un réseau qui se forme, qui fait que quand la 101e fourmi sort, elle a déjà de l'information et son déplacement va être de moins en moins aléatoire. Et petit à petit, elles vont apprendre des choses. Et donc, voilà, c'est ce type de processus que j'ai étudié dans ma thèse, des processus qui sont... totalement aléatoire au début, mais petit à petit, il y a des schémas qui se dégagent.
Alors c'est à ce moment-là que vous avez su que vous préférez raconter les mathématiques plutôt que les produire. Alors quelle est votre méthode de vulgarisation ? Restez avec nous.
France Culture, la science CQFD, Natacha Trio.
Direct sur France Culture avec Mickaël Launay. Nous parlons de mathématiques, de leur vulgarisation. Mickaël Launay, on vient de parler de votre parcours, de vos deux derniers ouvrages. Il y a aussi un livre dont il faut qu'on parle ensemble, c'est le Dictionnaire amoureux des mathématiques, parce qu'on l'entend tout au long de cet entretien, vous êtes passionné de votre discipline. Cet ouvrage paru chez Plon en 2021. Vous êtes co-auteur avec André Delédic, le créateur des concours kangourous. Et ce livre, c'est aussi un peu une boîte à curiosité des maths. Il y a différentes entrées, celle que j'aime beaucoup, c'est l'entrée Zenzik. Pas facile à dire à la radio.
Oui, alors zanzi, c'est un mot qui n'existe, enfin qu'on n'utilise plus vraiment, et heureusement parce que ça aurait été un peu compliqué. Il faut savoir aujourd'hui quand on apprend à résoudre des équations, on apprend des choses qui sont le fruit d'une longue histoire et qui a beaucoup évolué au cours du temps. Et si par exemple on veut écrire, on cherche un nombre. Disons un nombre qu'on ne connaît pas, mais on sait que si on lui ajoute 3, on obtient 5. Eh bien, ce nombre, c'est 2, ce n'est pas très compliqué. 2, si on lui ajoute 3, on obtient 5. C'est ce qu'on appelle une équation. Et en langage mathématique, aujourd'hui, on va l'écrire x plus 3 égale 5. On va l'écrire en quelques petits symboles, c'est très concis. Mais cette concision, elle met très longtemps à arriver. Pendant très longtemps, les équations s'écrivent en toutes lettres, dans le langage courant. Et donc, je cherche un nombre, et voilà, et on écrit des phrases et des phrases pour décrire toutes les propriétés du nombre qu'on cherche. Et donc à l'époque où on cherche à rendre ça un peu plus concis, des fois on invente des nouveaux mots pour être un peu plus concis. Et donc Zanzig, ça désigne le carré d'un nombre. Donc ce qu'on va écrire aujourd'hui dans les équations, x au carré, c'est-à-dire un x, un petit 2 avec un petit 2 à côté. Et Zanzig, c'est le carré du carré du nombre. Et Zanzig, c'est le carré du carré du carré du nombre, donc, qui intervient dans certaines équations. Mais qu'aujourd'hui, on va juste écrire x à la puissance 8.
Autre nombre qu'on découvre dans le théorème du parapluie, mais aussi dans une de vos vidéos, c'est ce nombre gigantesque qui vaut 10 à la puissance 100, en l'occurrence, Gogol.
Oui, c'est ça. ce nombre qui a qui est plus grand que le nombre de particules élémentaires dans tout l'univers observable. Donc c'est un 1 avec 100 zéros derrière, c'est absolument gigantesque, mais encore une fois, c'est le genre de choses qu'on peut se permettre en mathématiques. Et puis finalement, quand on écrit 10 puissance 100, on utilise juste 5 petits symboles, un 10 et puis un petit 100 écrit un peu au-dessus, et en 5 petits symboles, d'un seul coup, ça y est, ça explose et on a un nombre plus grand que tout ce qu'on peut observer dans l'univers. Et ça, c'est assez fantastique. Et ça, ce nom de Google a été repris ensuite par Google pour son moteur de recherche. Et
il a été. Alors, traite énormément de données.
Oui, c'est ça. Alors, j'ai oublié le nom, j'ai pas révisé ça, le du mathématicien qui l'a inventé, mais.
Édouard Kästner.
Voilà, Édouard Kästner, c'est ça.
J'ai triché, j'ai votre livre.
et qui, en fait, pour trouver ce nom, il cherchait un nom pour son nombre et il a juste demandé à son petit neveu qui a dit Google et c'était parti sur ce mot.
Michael Launay, est-ce qu'on raconte les mathématiques de la même façon, avec un livre, avec une vidéo, avec les ateliers sur lesquels vous participez également? Est-ce que tout ça, c'est la même démarche?
Alors, la démarche et l'envie de départ, est la même. C'est juste de parler ce dont j'aime parler, parce que c'est, dans tous les cas, c'est des choses qui m'enthousiasment à la base. C'est toujours un peu le point commun. Mais après, effectivement, c'est des formats différents qui permettent de faire des choses, de parler des choses différemment. C'est-à-dire que dans les vidéos, souvent, je traite un sujet, alors je le traite de manière plus ou moins longue. Et je vais m'intéresser à un thème en particulier. Les livres, l'intérêt des vidéos, c'est aussi que ça permet d'avoir des images qui bougent, d'avoir des jolies choses qui vont apparaître à l'écran. On a un format qui est formidable pour ça. Mais le livre a quand même cet avantage vraiment formidable qui est qu'on a un certain nombre de pages, que le lecteur, il est dans son fauteuil, il a le temps. Enfin, je le suppose, en tout cas, quand j'écris. Et on va pouvoir traiter plusieurs sujets et prendre le temps de faire des liens. Encore une fois, c'est quelque chose qui me semble absolument primordial quand on fait de la science. C'est de pas seulement voir la science comme une accumulation de choses. Il y a une phrase d'Henri Poincaré que j'aime bien, qui dit qu'on fait de la science avec des faits, de la même manière qu'on fait une maison avec des pierres. Mais un tas de pierres n'est pas une maison, et juste une accumulation de faits n'est pas une science. Et donc, juste raconter, on a tel fait, telle expérience qui a eu lieu, etc. Ça, c'est intéressant en soi, mais après, c'est comment toutes ces choses-là s'articulent, se connectent les unes aux autres. Et donc ça, le format livre permet de bien mettre en évidence ces connexions qui finalement sont, je crois, les choses les plus intéressantes à raconter. Quel est le plan global qu'on va pouvoir construire, qu'on va pouvoir mettre en place avec tous ces faits.
Et puis, vous avez en effet ces vidéos. Il y a des vidéos toutes les deux semaines, puis plus rien pendant 6 mois. Cette prochaine vidéo sur la mathématicienne de l'Antiquité, on peut l'attendre.
Alors, elle n'est pas encore tournée, donc j'ai dû écrire peut-être les deux tiers du script. Probablement d'ici avant la fin de l'année. Après, ça peut être plus ou moins variable selon. Parce que des fois, je suis assez clair, je me dis bon, je vais parler de ça. Et puis à un moment donné, dans mes recherches, je tombe sur un petit point, je me dis ah, ça c'est quand même intéressant. Et je suis reparti pour 2 semaines de recherche sur juste quelque chose qui sera une parenthèse. Et la vidéo va gagner 10 minutes d'un coup. Enfin, c'est toujours assez imprévisible.
Bon, en tout cas, on attend avec impatience cette prochaine vidéo. Dans quelques secondes, on retrouve la chronique d'Alexandra Delbo. Mais pour prolonger l'écoute, je rappelle que votre ouvrage, L'équation de la chauve-souris de la poussée d'Archimède à la physique quantique, est disponible. Il vient de paraître aux éditions Hugo Doc. Et tout de suite, un tout autre sujet, c'est la chronique avec science avec Alexandra Delbo.
Quelle est l'influence de la déforestation sur la couleur des insectes? Les couleurs sont essentielles à leur survie. Ce trait de caractère joue un rôle crucial dans la reproduction, pour trouver son ou sa partenaire, pour se camoufler dans l'environnement, ou au contraire pour avertir des prédateurs de leur potentielle toxicité. Et les motifs ont aussi leur importance. Couplés à la grande palette des couleurs du vivant, les combinaisons sont extrêmement nombreuses entre les espèces et même au sein de chaque espèce. Et il a déjà été prouvé que les activités humaines peuvent influencer ces couleurs et forcer, entre guillemets, l'évolution des insectes. C'est l'exemple emblématique de la pollution au 19e siècle sur un papillon de nuit, la phalène du bouleau. Mathieu Joron est directeur de recherche CNRS au Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive de l'Université de Montpellier.
C'est l'exemple de ce qu'on appelle le mélanisme industriel. C'est le cas de la phalène du bouleau qui a cette coloration, normalement le plus souvent une coloration blanchâtre qui ressemble à du lichen, qui permet à la phalène d'être très bien camouflée sur un substrat naturel avec des lichens. Il y a eu une sorte d'explosion d'une forme sombre, en fait toute noire, au moment de la révolution industrielle en Angleterre notamment, mais aussi en Europe, entre Paris, la Ruhr et les Pays-Bas. Et c'est cette variation de coloration a été très tôt attribuée à la pollution, en fait, au changement de l'environnement en Europe, qui a causé un déclin des lichens, qui a causé un noircissement un assombrissement des substrats en général. Et ce changement de l'environnement aurait favorisé la forme noire de la phalène du bouleau, au point que la forme blanche dans ces régions-là, donc dans le centre de l'Angleterre et dans tout le nord-ouest de l'Europe, et on trouvait plus de forme blanche.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec l'assainissement général de l'environnement dans ces régions, au XXe siècle, la phalène blanche du bouleau est redevenue majoritaire, preuve d'une nouvelle adaptation rapide dans l'autre sens. Mais y en a-t-il d'autres ? Existe-t-il des exemples plus récents d'évolution rapide de la couleur des insectes à cause des activités humaines ? C'est ce qu'a voulu regarder cette étude avec la déforestation et un groupe d'espèces d'insectes qu'on trouve près des cours d'eau, les perles, aussi nommées les mouches de pierre. Et dans ce groupe, certaines espèces arborent la même couleur. C'est une forme de mimétisme. Austroperla, par exemple, est noire, visible et toxique. Cette robe noire lui permet d'avertir les prédateurs qu'il ne faut pas la manger. Une stratégie payante. Alors, pour se protéger, sa cousine, Zélandoperla, est-elle aussi noire, bien qu'elle soit parfaitement comestible par les oiseaux. Mais cette nouvelle étude parue dans Science montre un changement de couleur chez cette dernière. Grâce à une analyse écologique et génétique de 1200 spécimens dans 19 habitats différents, les scientifiques de l'université d'Otago en Nouvelle-Zélande montrent que les zones déforestées voient apparaître des Zélandoperla plus clairs.
La déforestation enlève l'avantage d'être noir, en quelque sorte. Les statistiques ne montrent pas vraiment de différence très forte, mais il y a quand même une différence a priori. Les noirs sont légèrement plus prédatés, sont plus attaquées par les prédateurs en zone déforestée, probablement parce qu'elles sont plus visibles. Mais elles sont moins prédatées en zone forestée, les formes noires, et elles sont autant ou légèrement plus attaquées en zone déforestée. Donc la forme noire est favorisée dans les zones boisées, là où il y a la perle toxique, et elles sont légèrement défavorisées dans la zone déboisée, où il n'y a pas de perle toxique. Donc a priori, les perles non toxiques sont sélectionnées dans les zones boisées en faveur de la forme noire. Donc les formes noires sont plus communes. Et dans les zones déboisées, la forme noire est plus attaquée et donc ça favorise la forme grise. Donc il y a un changement de couleur entre les deux habitats. Dans les habitats forestés, la forme noire est principalement présente. Et dans les zones déforestées, la forme grise est principalement présente.
La forme noire disparaît des zones déboisées parce qu'elle n'est plus avantageuse, d'autant que produire de la mélanine pour colorer son corps a un coût énergétique non négligeable. Il y a deux interprétations possibles en fonction de votre degré d'optimisme. Vert à moitié plein, les insectes s'adaptent très rapidement au changement de leur environnement. Et vert à moitié vide, les activités humaines dérèglent totalement les écosystèmes. Et même si certaines espèces s'adaptent, ce n'est certainement pas le cas de toutes, cette évolution génétique rapide des insectes n'est pas en soi une nouveauté, mais mettre le doigt dessus dans une étude n'était pas chose aisée. Reste à présent à investiguer d'autres cas d'évolution induits par les humains, notamment sur le changement climatique, pour comprendre exactement comment, c'est-à-dire par quel mécanisme, les insectes sont capables ou non de s'adapter.
Merci Alexandra pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Et merci à toute l'équipe de la Science CQFD. Ève Etienne, Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Noémie Eliazor, Bruno Sansini, Alexandre Morales, Ali Ruyer-Thompson. À la réalisation, Olivier Bétard. À la technique aujourd'hui, Anthony Thomasson. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.